Le maire de Béziers, Robert Ménard, est notre invité ce midi. Monsieur Ménard, interview de la Première Ministre sur Radio J aujourd'hui. Elisabeth Borne tire fort sur le Rassemblement National. Je la cite, le RN, c'est l'héritier de Pétain. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Des propos jugés outranciers par Jordan Bardella. Vous les jugez comment, vous ?
Stupide. C'est stupide de dire ça. Je veux dire, on a besoin d'apaisement, on a besoin de propos aussi caricaturaux que ça. Et pourquoi elle ne dit pas, je sais pas, le Parti communiste, l'héritier de Staline ou du pacte germano-soviétique ? Ce serait pas très intelligent, mais ce serait pas plus intelligent que ce qu'elle dit là. Écoutez, moi je suis pas d'accord avec plein de choses du Rassemblement National. En ce moment, je suis plutôt fâché avec Marine Le Pen, mais elle n'est pas l'héritière de Pétain. Il faut pas rigoler. Ce parti, il a changé. Je veux dire, il y a des gens qui veulent pas voir le changement et qui font que les choses sont impossibles. Alors, je sais pas si la politique, c'est ça. Je trouve ça, au fond, assez lamentable. On peut reprocher un certain nombre de choses au Rassemblement National, il faut le reprocher. Je sais pas, quand Marine Le Pen, elle dit oui, la Crimée, elle est russe, vous savez, il y a eu un référendum, comme si ce référendum n'était pas truqué. Enfin, il faut lui dire, vous dites une bêtise et il faut pas dire ça. Mais tu dis pas, elle est l'héritière de quoi? De Vichy. Mais c'est absurde, c'est juste absurde et contre-productif. Elle se caricature et elle sait en même temps les gens qui disent, et elle est une première ministre qui dit, il faut essayer de parler raisonnablement, nous soyons raisonnables.
Elle fait un lien historique, Tixier-Vignancourt, proche d'Izorni, avocat de Pétain, candidat en 65 avec comme directeur de campagne Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen. Et c'est vrai que Marine Le Pen n'a jamais dit, je rejette tout ce qui a été fait avant moi au FN.
Et sur le Parti communiste et Staline, on en parle deux minutes. Oui, mais je n'entends jamais ce gouvernement le dire. Vous l'avez entendu, vous ? Est-ce que vous l'entendez une fois nous expliquer que M. Roussel est l'héritier de Staline ? Oui, non. Non, vous ne l'entendez pas. C'est stupide de dire ça, je ne le dirai pas. Mais alors, je ne dirai pas de Marine Le Pen qu'elle est l'héritière de je ne sais pas qui, de Vichy. Je ne le ferai pas et je ne pense pas que vous le feriez. Je ne pense même pas sérieux ce que vous venez de dire parce que je pense que vous ne le pensez pas en un instant. Attendez, on essaye d'être un tout petit peu plus intelligent que ça. Mais la politique, c'est ce jeu caricatural qui rend impossible tout débat un peu sérieux.
C'est plutôt Zemmour qui a essayé de réhabiliter Pétain dans la dernière campagne.
Là, je ne parle pas de Zemmour. Vous me posez la question. Zemmour, il ne représente pas ce que représente le Rassemblement National. Et on peut, encore une fois, ne pas aimer Marine Le Pen. Moi, je la critique sur bien des points. Elle a rompu avec bien des choses de son parti. Bien des choses.
Alors justement,
elle n'est ni raciste, ni antisémite. Elle est nationaliste. Elle est tout un tas de choses que je n'aime pas beaucoup. Mais je ne dirais pas qu'elle est raciste.
Elle est présentée, M. Ménard, Marine Le Pen, comme un peu la théoricienne de la... La banalisation de son parti, en tout cas pour ceux qui sont opposés à elle politiquement. C'est d'ailleurs ce que dit la Première ministre ce matin, qui craint, sont ses mots, l'élection de Marine Le Pen en 2027, justement en raison de cette banalisation. Vous pensez qu'on est sur
cette route ? Non, mais si Marine Le Pen est élue, c'est à cause d'elle. C'est à cause de notre Première ministre, parce que chez moi, il y a plein de gens qui votent pour Marine Le Pen. Caricature, continuer à caricaturer comme ça Marine Le Pen et ça exaspère les gens, vous avez compris. C'est elle, c'est pas seulement la France insoumise, parce qu'elle a dit aussi c'est la France insoumise qui fait le jeu de Marine Le Pen. Non, c'est elle qui fait le jeu de Marine Le Pen. C'est notre Premier ministre en la caricaturant qui fait son jeu, absolument.
Est-ce que vous redouteriez l'élection de Marine Le Pen ?
Je pense qu'aujourd'hui la France, elle a besoin d'apaisement.
Donc
elle
pas besoin, de Marine Le Pen.
Elle a besoin d'apaisement. Je vois que le Rassemblement National évolue, qu'il évolue assez, je ne le pense pas. Je citais la Crimée sur les positions européennes, ils ont beaucoup évolué, mais pas assez à mon goût, enfin... Elle peut se foutre aussi de ce que je peux bien penser. Sur la retraite, j'ai trouvé que dire que cette réforme était injuste, oui, travailler 2 heures de plus, ça fait plaisir à personne, en dehors de nous, parce que ça ne nous concerne pas. Mais pour les gens qui ont des boulots un peu rudes, ça, dire c'est une réforme injuste, dure et tout. Mais oui, peut-être. Mais dire c'est une réforme qui ne sert à rien, c'est une bêtise, là aussi, parce qu'on a besoin de faire une réforme de ce type-là, même si elle est difficile.
Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas symbole pour vous suffisamment d'apaisement aujourd'hui, Marine Le Pen ?
Ah non,
malgré la discrétion, ce qu'on appelait la stratégie de la cravate, le fait que ses députés se tiennent très très bien à l'Assemblée, etc.
Je préfère, parce qu'elle a dit aussi ce matin qu'elle ne faisait pas de signe d'égalité entre la France insoumise, vous avez vu, et le Rassemblement. Exactement. Moi non plus. mais sûrement pas pour les mêmes raisons. Parce qu'entre le comportement des élus du Rassemblement national à l'Assemblée nationale et les élus de la France insoumise, qui se comporte le mieux entre les manifestations et les prises de position du Rassemblement national, par exemple sur la police, sur les problèmes de l'ordre et tout, et de M. Mélenchon qui dit « la police tue », qui,
justement, elle le dit. Elisabeth Borne dit Jean-Luc Mélenchon a sa responsabilité dans la violence ambiante. Donc, elle est sur votre ligne.
Elle, mais elle pourrait aussi dire que Marine Le Pen, sur ces... Qu'est-ce que ça coûte de dire que sur ces questions-là, on se sent plus proche de Marine Le Pen que de M. Mélenchon ? Moi, je me sens plus proche. Je pense qu'on se sent plus proche. Aucun d'entre nous ne va expliquer que quand vous rencontrez un policier, monsieur, vous vous sentez menacé. Pardon, moi, le policier, il me rassure plutôt. Quand le Rassemblement national dit ça, il a juste raison. Mais c'est bien qu'il change le Rassemblement national. Moi, plus il changera, mieux mon pays se portera. Ensuite, que vous ayez envie de voter ou pas pour le Rassemblement national, c'est une autre affaire. Mais qu'aujourd'hui, le Front national est à ce point changé, même si, encore une fois, il y a encore des marges de progression. Mais attendez, on devrait tous s'en satisfaire. Et notre première ministre, elle devrait s'en satisfaire la première, en disant « Oui, Marine Le Pen n'est pas son père ». Enfin, c'est évident quand même.
Sur la Crimée, vous ne partagez pas ses positions ?
Bien sûr que
mais
non.
Mais est-ce que vous pensez qu'elle est russophile ou qu'elle a toujours, contrairement à ce qu'elle a dit devant l'Assemblée nationale, une dépendance vis-à-vis de la Russie, alors, à cause de son prêt russe, par exemple ?
C'est deux choses. Qu'autour d'elle, il y ait des gens qui avaient une admiration absolue et encore aujourd'hui pour Poutine, je vous garantis que c'est vrai. Et je vous dis parce que je les connais pour les avoir fréquentés, pas dans leur parti, mais pour avoir discuté avec eux et tout. Bien sûr qu'il y avait une fascination pour cette espèce d'homme fort, vous savez, cette virilité, ce nationalisme qui s'affirmait, cette nation qui prenait sa revanche sur les Américains. Ça, c'est la première argument. Deuxièmement, il y a une détestation des États-Unis dans cette partie de l'échiquier politique. Attendez. Du côté de l'extrême gauche, c'est le même tonneau quand même. C'est la même fascination. Au fond, ils se ressemblent comme des jumeaux quand même. Aujourd'hui, les héritiers du communisme, il y en a deux du communisme. Il y a l'extrême gauche, mais il y a la droite de Marine Le Pen. Ils ont sur tout un tas de sujets les mêmes.
Et sur la deuxième partie de la question de Marie-Christine, vous pensez qu'elle est toujours dépendante ?
Je ne sais pas. Comme vous, j'ai vu qu'il y avait un prêt. Est-ce que ça fait une vraie dépendance ? Je n'en sais rien. Je dis ni oui ni non, je n'en sais rien.
Autre sujet, autre membre du gouvernement dans la presse ce matin, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Monsieur Ménard. Il propose aux Républicains de travailler de concert sur la loi immigration. Est-ce qu'une nouvelle loi sur le sujet, selon vous, c'est nécessaire ?
Oui. Sur un certain nombre de sujets, oui. Par exemple, sur l'emploi, vous savez, la prime donnée dans un certain nombre de boulots,
La régularisation sur les métiers en tension.
Ouais, je trouve que, vous voyez, c'est là où la politique est un peu stupide. Parce que c'est un truc qui se règle de façon administrative. Il n'y a pas besoin d'en faire une loi et donc de faire une fois de plus de la division pour rien. Mais moi, ce que je constate, c'est que Darmanin, et il a changé sur un certain nombre de choses. Et là encore, la droite, elle devrait s'en satisfaire. Plutôt que de ces espèces de guerres de coqs. Attendez, sur les quotas, il en parlait pas, il en parle. Sur, comment ça s'appelle, l'AME.
Oui.
Attendez, il a changé.
L'assistance médicale.
Il a changé. Sur un certain nombre de sujets, il a évolué sur les quotas. Il le disait pas. Moi, je trouve que les Républicains devraient dire d'abord, dire le ministre de l'Intérieur a changé. C'est une bonne chose. Il les écoute.
Donc, vous le croyez sincère quand il dit qu'il va faire un des textes les plus durs depuis
les
20 dernières années ?
Attendez, si on se met à interroger la sincérité des uns et des autres, c'est un puits sans fond.
Mais vous y croyez tout de même que ce texte va être plus dur que les précédents ?
Je pense que, au-delà de la sincérité, vous avez compris sur laquelle je ne me prononcerai pas, je crois qu'il y a une telle unanimité sur l'immigration.
Des Français ou des politiques ?
Des Français. C'est ça qui me tue. C'est qu'il n'y a que les plateaux de télévision et l'Assemblée nationale pour voir les gens se foutre des bouffes sur l'immigration. Vous avez vu les sondages, c'est pas moi, je suis maire, je le constate tous les jours. Il y a les trois quarts des Français qui pensent la même chose sur l'immigration. Ils pensent qu'il y a trop d'immigration, qu'elle n'est pas assez contrôlée, ce que pensent, je vous le dis, parce que dans ma ville, je le vois aussi, les immigrés eux-mêmes, les gens d'origine immigrée qui sont dans ma ville, ils sont les premiers à me dire, on va peut-être arrêter 5 minutes avec l'immigration, on va essayer d'intégrer les gens. C'est-à-dire que c'est le sujet qui pourrait être le plus consensuel d'une certaine façon. Ou, pour revenir sur Marine Le Pen, elle a dit avant les autres un certain nombre de choses importantes. Même si madame, sur un certain nombre de ses réponses, quand elle dit l'immigration zéro, c'est stupide, ça n'a pas de sens et tout. Mais il y a une espèce de consensus qui pourrait se bâtir face à cette immigration. Et qui n'est pas un consensus raciste, xénophobe, qui est juste que aujourd'hui, si on veut intégrer un certain nombre de gens, vous ne pouvez pas le faire quand, dans certaines écoles de ma ville, il y a plus de 90% d'enfants qui sont issus d'immigration.
Sauf que sur certaines propositions, M. Ménard, Christophe, les LR, ils sont allés très très loin.
Il y a une ligne rouge tracée par Gérald Darmanin, réformer la Constitution pour qu'il y ait une possibilité pour la France de ne pas respecter les traités, un peu comme le font les Danois, c'est non. Il appelle ça un Frexit migratoire, vous êtes d'accord avec l'expression ?
C'est une caricature d'expression, parce que personne, enfin je ne crois pas, peut-être je me trompe. En tout cas, par rapport aux positions des Républicains, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a des pays européens, par exemple sur la Cour européenne des droits de l'homme, et donc la Convention européenne des droits de l'homme. Vous rappelez qu'il y a quelques années, la France avait ce qu'on appelle des réserves. Ça veut dire, sur tel ou tel article, on sort pas de la Convention, mais sur tel ou tel article, on prenait ses distances. En termes juridiques, ça s'appelle des réserves. On est revenu, il y a 30 ou 40 ans, je me souviens plus, sur ces réserves-là. Je pense que la France devrait prendre un certain nombre de réserves sur tel ou tel article. Vous avez compris, c'est pas une révolution, c'est pas rompre avec l'état de droit, juste prendre un certain nombre de réserves qui nous gênent dans un combat contre les passeurs, contre une immigration qui est une immigration financée, qui finance les passeurs. Je pense qu'il serait possible.
Il n'y a pas besoin de changer la Constitution
mais
pour ça.
Attendez, il y a juste besoin de prendre ses distances avec tel ou tel article.
Enfin, c'est pas ce que demandent les LR quand même, hein, qui demandent à ce qu'on ne.
Je suis pas obligé d'être d'accord avec tout ce que disent les LR.
Donc, le Frexit migratoire, c'est pas si faux que ça.
Attendez, mais même les LR, ils ont évolué. Attendez, quand même. Je veux dire, aujourd'hui, ils font une leçon à Darmanin. Ben, attendez, moi, si j'avais été mauvais esprit, j'essaye de ne pas l'être. Je reprendrais leur position, il y a, je ne sais pas, sous Chirac, par exemple, et on pourrait pouffer de rire, quand même, 2 minutes sur leur position alors. Mais je ne veux pas le faire, parce que je trouve que c'est très bien que les LR aient changé, aient pris en compte la réalité telle qu'elle est. Ce n'est pas droitisé ou quoi, je ne le pose pas comme ça. C'est juste la réalité. Aujourd'hui, c'est un vrai problème, l'immigration. Et pour les immigrés eux-mêmes, si on veut bien, encore une fois, intégrer un certain nombre de gens, vous pouvez le faire quand les gens, sont aujourd'hui pas hyper majoritaires, par exemple, dans un certain nombre de classes et d'écoles.
Vous soupçonnez les LR de finalement se moquer un peu de l'immigration, mais simplement de tendre un piège politique au gouvernement. On fait un texte inacceptable par la majorité, ils pourront pas venir, ils pourront pas faire voter le leur, on a coincé le jeu.
J'espère qu'ils vont arriver à un compromis, enfin. Je veux dire, moi, quand quelqu'un me fait un certain nombre d'avancées qui vont dans mon sens, et dans le sens de ce que je crois, j'essaye de trouver un terrain d'entente. Il me semble que la politique, c'est ça. Malheureusement, sur quoi vous mettez le doigt, monsieur, c'est les logiques de parti.
À prendre ou à laisser, a dit Olivier Marleix.
Mais ça, c'est des postures. Enfin, j'espère que ce sont des postures. C'est pas sérieux.
Mais est-ce que vous êtes inquiet d'une potentielle nouvelle utilisation du 49-3? Et je précise que le gouvernement n'a droit qu'à un seul 49-3 par session parlementaire, hors texte budgétaire. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est une seule occasion pour le gouvernement. Il a mobilisé pour la réforme de retraite le 49-3. Oui, c'est un puissant moteur pour les Français.
Mais je pense que c'était une erreur. Je pense qu'il faut faire voter. Comme il faut faire voter la proposition Liotte. Vous faites voter.
La vérité.
Vous battez, puis vous perdez. Pardon, c'est comme si, à un moment donné, je ne sais pas, il y a des votes, on dirait, allez, on te fout les urnes à la poubelle, comme ça, je me demande pas si les gens me font confiance.
Alors
ou pas.
Justement, Monsieur Ménard, la proposition Liotte, nous allons y revenir. Elle va être examinée le 8 juin dans le cadre des niches parlementaires. Juste avant de nous pencher dans le détail là-dessus, et parce que c'est lié, nous allons écouter Justine Trier. Elle a remporté hier la Palme d'Or à Cannes. C'est une réalisatrice française. Elle a réalisé Anatomie d'une chute. Et au moment de ses remerciements, voilà ce qu'elle a dit en partie, entre autres, sur la scène.
Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante.
Vous avez réagi comment en entendant ça?
Vous vous rappelez, moi je suis assez vieux pour me souvenir, vous savez, on parlait de la gauche caviar, vous vous rappelez? Là, c'est les révolutionnaires subventionnés quand même, tu vois. C'est la révolution sans aucun risque, c'est le courage sans danger.
Après, ce qu'elle a expliqué, M. Ménard, c'est qu'elle prenait, elle l'est consciente, elle a dit, moi je sais la chance que j'ai.
Alors tu t'en passes.
Il faut que
pas.
Moi je parle pour d'autres qui n'ont pas cette chance.
Non, mais attendez, en paillettes, parler du bleu de travail,
mais juste, c'est une tradition canoise, non? Comment? C'est une tradition canoise.
Ouais, enfin oui, d'accord, c'est peut-être une tradition canoise, c'est une tradition que je ne revendique pas. Je veux dire, on a une intelligentsia qui se fout du monde, quoi, tu vois. Coupe le champagne à la main, qui nous explique qu'elle est contre la réforme de la retraite. Enfin, ça fait pouffer de rire absolument tout le monde. C'est des gens qui sont gavés de subventions. Et elle ose dire, attendez, elle ose dire qu'en France, on est dans un régime néolibéral. Je te l'enverrai, moi, dans un régime néolibéral. Je veux dire, moi, j'aime pas Macron tous les matins, mais comme néolibéral, on fait mieux que lui. Vous avez vu ce qu'il a donné comme subvention, ce qu'il aide, y compris le cinéma. Il vit comment, le cinéma français? Je suis ravi de ça, vous avez bien compris. Mais enfin, c'est... Tous ces metteurs en scène, ils ont bénéficié de l'argent public à un moment donné ou à un autre. Ils peuvent juste le reconnaître. Enfin, honnêtement, je trouve ça un peu indécent.
Alors,
et risible.
Ce qui va se passer dans l'hémicycle le 8 juin, Marie-Christine.
Vous allez la voter, cette loi?
Vous la voteriez?
Je vous rappelle que
oui.
Je ne suis pas député.
Non, c'est vrai.
Mais j'ai une femme qui est députée,
voilà.
Mais pas
alors,
moi.
Est-ce que vous la voteriez? Est-ce qu'elle va la voter? Elle doit.
Attends. C'est deux choses. Vous demanderez à ma femme ce qu'elle va voter. Vous êtes une femme, alors
demandez. Est-ce qu'elle vous l'a dit? Est-ce qu'elle a déjà arrêté son
quand
choix
même.
Ou est-ce qu'elle attend?
Je pense qu'elle réfléchit, qu'on n'a pas tout à fait le même choix. Moi, je ne la voterai pas.
Et elle, alors?
Je ne sais pas, pour l'instant.
Non, mais vous en discutez, ça veut
pas
dire.
Je pense qu'elle va s'abstenir.
Pourquoi vous ne la voteriez pas, M. Ménard? Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs, l'objet du premier article, c'est de ramener l'âge de départ de 64 à 62 ans. En fait, c'est de faire empêchement à cette réforme et essayer de faire en sorte qu'elle soit suspendue. Pourquoi est-ce que vous ne la voteriez pas?
Parce que je trouve cette réforme mal ficelée, mal expliquée, mal conçue, mais il faut absolument une réforme. Et donc, pardon, c'est toujours pareil, je ne choisis pas entre le bien et le mal, je choisis un compromis le mieux possible.
Vous avez vu que ce matin, la Première ministre, elle juge le comportement de Charles de Courson, qui est député Liotte, leader des députés Liotte, irresponsable. En fait, elle l'accuse, lui et ceux qui l'entourent, de faire de la politique parce que le texte ne passera pas et que ça remet...
Sur ça, elle a raison. Puis Charles de Courson, c'est son heure de gloire, quoi, tu vois. Je veux dire,
il sera là ce soir, d'ailleurs.
Ben, vous pouvez lui dire de ma part. Voilà, je veux dire, il vit son moment de triomphe médiatique et politique. Tant mieux pour lui. Je pense qu'elle a raison de dire que c'est irresponsable. Alors, je pense qu'il connaît assez bien la situation de la France pour pas nous faire croire qu'on peut aujourd'hui faire l'économie d'une réforme, encore une fois, difficile pour tout le monde. Difficile encore plus pour un certain nombre de gens. Donc il fallait faire en sorte, expliquer clairement que ceux pour qui c'est le plus difficile ont trouvé des solutions. Mais regardez, vous ne vous rappelez pas, au début, les 1200 euros, on ne savait plus si c'est net ou brut, ce qui n'est pas tout à fait la même chose pour les gens.
Certes.
Net ou brut, c'est pas la même chose. Mais vous vous rappelez, au début, c'était des millions. On a fini par quoi? Entre 10 et 20 000, c'était ça. Enfin, il faut arrêter, il faut dire des choses claires.
Et les décrets d'application permettront d'y voir plus clair. Vous ne voteriez pas ce texte s'il arrivait en proposition, et c'est-à-dire que vous soutenez la stratégie actuelle de la majorité d'essayer d'évacuer ce texte, soit en commission, soit par l'article 40, qui est interdit aux députés de créer des charges budgétaires.
Non.
Il faut aller au vote.
Il faut aller au vote. Et je trouve la présidente de l'Assemblée nationale, je ne sais plus trop où elle en est, Je la trouve courageuse. Dans les déclarations que j'ai entendues jusqu'à présent d'elle, elle a raison. Alors, à l'Assemblée, on vote et on trouve pas des stratagèmes. Vous savez, en plus, des stratagèmes, tu finis par plus rien comprendre. Parce que j'ai plus compris qui pouvait décider qu'on vote pas le président de la commission des finances.
Ça, c'est concret, il le fera pas. Ouais, le rapporteur du budget
rapporteur
peut soulever
du budget,
ça. La présidente.
Vous voyez, plus personne, d'abord, l'article 40, plus personne ne savait ce que c'est, plus personne n'a jamais su ce que c'est, à part trois spécialistes.
Si, quand même, depuis 2008, on sait que ça crée un devoir, impératif pour les parlementaires.
Vous savez.
Ah, c'est la Constitution.
Les Français le savent parce que Christophe Barbier l'a expliqué.
Pardon, je regrette. Le nombre de projets de loi qu'on a votés alors qu'on sait pertinemment qu'ils gagent et qu'ils font qu'il y ait plus de dépenses d'argent, à ce moment-là, le gouvernement, il n'a pas dit « Oh, article 40, c'est pas possible. On sort
Monsieur
l'article
Ménard.
40 quand ça t'arrange. » Non, vous avez compris, il faut aller au vote et puis tu perds. De toute façon, c'est juste un débat, pardon, de politiciens. Parce que de toute façon, vous, moi, tous les quatre, on sait parfaitement que ça n'ira jamais plus loin que ça. C'est de l'ordre du symbole.
Alors justement.
Parce que ça ne sera pas adopté au Sénat. Donc, c'est juste le microcosme politique qui se passionne pour un truc, mais qui aura des conséquences. Ça veut dire qu'on remet une pièce dans le jukebox.
C'est le seul vote.
Et on va recommencer les manifestations et tout.
Alors, d'un mot, parce que vous y faites allusion, la mobilisation, elle a été très importante contre ce texte. Tous les sondages ont dit qu'une immense majorité des Français y étaient opposés. Le président de la République et sa première ministre l'ont payé dans les sondages en termes de popularité. Ils sont descendus très, 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 très bas. Et là, ils remontent. Il y a un rebond. Est-ce que ça veut dire que tout passe, Robert Ménard ? Même à ce niveau de colère et de rejet, bon, en fait, tout passe.
On le sait, c'est la vie. C'est la vie qui est comme ça, c'est pas la politique. Tu aimes passionnément quelqu'un, la personne te quitte, tu crois que tu ne vas pas t'en relever, et puis 10 ans après, tu retombes amoureux. Donc non, c'est la vie qui est comme ça. Et puis oui, il y a une lassitude, mais moi je le vois chez moi. Écoutez, on a eu dans ma ville 80 000 habitants, des fois, parfois, au moins une fois, plus de 10 000 manifestants, ce qui n'est pas rien dans ces villes moyennes. Vous l'avez remarqué, c'était là. La dernière manifestation, elle était la semaine dernière, il y avait 150 personnes. Je pense qu'aujourd'hui, chez moi, les gens, ils sont plus soucieux du pouvoir d'achat et tout ce que ça veut dire pour eux, et de la sécheresse. Pardon, je suis dans le Midi, et la sécheresse, c'est pareil.
On en parlera. Elle est là, la petite fiche avec les photos que je vais vous montrer dans un instant après la pub. À 12h30, 3 photos d'actualité, vous pourrez en choisir 2 et nous poursuivrons évidemment nos échanges. À tout de suite en direct sur BFM TV. BFM Politique en compagnie du maire de Béziers, Robert Ménard. Monsieur Ménard, voici 3 photos, elles apparaissent derrière moi, vous allez pouvoir en choisir 2. Vous allez voir un hexagone apparaître. Vous allez voir les visages d'Erdogan et de Kılıçdaroğlu, c'est l'élection présidentielle en Turquie, et puis les hommages à la jeune Lidse. Troisième photo, quelle première photo choisissez-vous ?
Hexagone, faut expliquer peut-être.
Ouais. Je vais expliquer tout de suite. Merci mon Christophe. Les règles du jeu.
La troisième, c'est quoi ?
Ce sont les hommages à la jeune Lidse devant son collège.
Ah oui, je sais pas. L'hexagone, parce que je suis curieux de savoir.
Alors, je vais vous expliquer.
C'est tout.
En fait, il y a un amendement. Je suis très content que vous choisissiez cette.
Ah, il avait envie, oui. Il avait envie.
Oui, parce que c'est un peu passé
sous
les radars.
C'est pas pour faire plaisir que j'ai choisi. Je savais pas. Hein.
C'est gentil. Un amendement a été déposé par le député guadeloupéen Olivier Servat, amendement soutenu par LFI, soutenu par le gouvernement dans le cadre de la loi de programmation militaire. Cet amendement propose de supprimer le mot métropole au profit du mot hexagone. Si le texte est voté, ce qui est probable, le mot métropole va disparaître de tous les textes officiels parce qu'il sous-entend une dimension de colonie et de pays colonisateur. Et il sera remplacé partout par le mot hexagone.
Ah ouais.
Est-ce que ça vous fait réagir ?
Les bras m'en tombent, tu vois.
Ah bon ?
C'est comme quand je discute avec, je sais pas moi, l'éducation nationale et que les gens me disent, et que je dis cantine, ils me disent, non, restaurant scolaire, tu vois. C'est la même chose.
Vous le mettez au même niveau ? Parce qu'en fait, ce qu'explique ce député, M. Ménard, c'est qu'il donne la définition dans le dictionnaire de métropole qui est attachée à des colonies.
Si ça lui fait plaisir. Si ça. Honnêtement, c'est ça le problème des territoires d'outre-mer. C'est vraiment ça. On va régler les problèmes en changeant le mot. On est dans un monde qui fait que ça à longueur de temps. Je peux vous en citer 50 exemplaires. Avant, c'était des gens chez moi, ils voulaient qu'on parle, ils détestaient le mot province. Vous savez, province, ça fait provincial. Moi, je trouve que c'est un joli mot. Tu peux en faire 50 fois. On est les spécialistes de querelles sans beaucoup de sens.
Oui, mais il y a une dimension spécifique par rapport à cette mémoire blessée du temps colonial. C'est comme ça qu'on a dit qu'il fallait plus appeler tête de nègre des gâteaux, qu'on change même les dix petits nègres. Il y a une dimension cancel culture critiquable. Ah ouais. Puis il y a aussi une dimension compassion peut-être qu'il peut avoir.
Et les dix petits nègres d'Agatha Christie, vous pensez que ça a changé quelque chose ? Moi, je trouve ça ridicule. Pardon, j'ai le droit de...
L'effet consolateur, vous ne le prenez pas en compte, éventuel hein.
Moi, je pense que non. Je pense que les questions, elles ne se posent pas comme ça. Les questions, elles se posent comment, dans un certain nombre de territoires d'outre-mer, vous voyez un chômage comme il y a, vous voyez les prix, on parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat explosif.
La santé.
La santé, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Mais alors là, ce genre de truc-là, c'est...
Allez, il nous reste 2 photos.
Mais c'est tellement plus facile. C'est-à-dire, c'est plus facile, vous avez compris, de changer
les mots,
le mot que de changer la réalité.
Il nous reste 2
mais
photos.
Mais on est très très bon en France pour ça, très bon.
Les visages des candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle turque ou les hommages à la jeune Lidse qui s'est suicidée. Quelle photo choisissez-vous ?
La Turquie, par exemple.
La Turquie, donc élection présidentielle. Erdogan, président depuis 20 ans, en tête au premier tour face à Kılıçdaroğlu. Est-ce que vous souhaitez le départ d'Erdogan ?
Ben, tout le monde le souhaite. Pour le remplacer par qui ? Moi, je connais, je vous rappelle quand même. Moi, j'étais le patron de Reporters Frontières. Je suis interdit de séjour en Turquie, donc je ne peux plus y aller. pour avoir dénoncé, c'était les militaires à l'époque. Vous vous rappelez, c'était le chef d'état-major qui faisait la pluie et le beau temps. Quand Erdogan est arrivé au pouvoir, pour tout un tas de gens, y compris dans le domaine des droits de l'homme, c'était une avancée. Il faut juste avoir un tout petit peu. Vous avez vu comment le mec a évolué pour continuer à pour arriver à
un régime autocratique.
Au régime où il est, flattant les réactions religieuses les plus rétrogrades, les plus archaïques et tout. Je ne suis pas sûr, pour avoir entendu son opposant, comment il a tenté, entre les deux tours, de séduire l'extrême droite, qui est encore pire qu'Erdogan turc. Je ne suis pas sûr que ce garçon, je lui ferai une confiance absolue. Ça, c'est la première réalité. La deuxième, c'est que ça doit nous interroger. Quand même, il y a eu plein d'élections truquées en Turquie. C'était quand même une spécialité turque, les élections. Là, j'ai eu l'impression, en tout cas, que ça avait été un peu moins que d'habitude.
Il y aura 1 million d'observateurs de l'opposition dans les bureaux de vote aujourd'hui.
Donc, un peu moins que d'habitude. Je vous rappelle que de temps en temps, on prend nos désirs pour la réalité, les Occidentaux. On pensait qu'il était discrédité parce que, économiquement, ça allait mal. Qu'est-ce qu'on découvre ? En fait, qu'est-ce que moi, je découvre ? C'est que la motivation du vote, et je pense que ça nous intéresse là, nous-mêmes, elle n'est pas forcément le pouvoir d'achat. La capacité qu'a Erdogan, dangereuse, à flatter le nationalisme turc, à flatter l'histoire turque, à remettre en avant une histoire prestigieuse et tout, ça peut être plus fort que le séisme, plus fort que l'inflation, plus fort que l'économie. Ça veut dire que quand on, dans un mauvais cas comme ça, on le voit, mais ça peut être aussi pour rebondir ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait imaginer la politique qui soit pas une politique où on flatte sans arrêt les gens, mais où on peut les motiver sur des choses qui sont plus importantes que pour eux. Mmh. La retraite, c'est très important, mais je pense que les Français, le mal-être, y compris culturel, qui est le leur, d'une grande majorité de Français, je pense qu'on peut construire la chose là-dessus, des choses fortes.
Mais ça veut dire que vous pensez qu'on n'est pas assez nationaliste? Non, même pas.
Je dis pas assez nationaliste. Je pense que la politique, on l'a fait mal, on l'a fait avec des sondages, vous savez, comme boussole. Je pense que les Français, on peut leur parler. Alors, on pourrait leur parler différemment et leur donner, je sais pas, les entendre différemment.
Est-ce que ça vous parle, du coup, lorsque le président de la République s'adresse aux Français et utilise le mot de décivilisation? Il l'a fait cette semaine, ça a provoqué une polémique importante. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce mot?
Là aussi, c'est quand même invraisemblable. Moi, quand il dit décivilisation, je connais Renaud Camus, donc vous voyez, je tombe
pas... C'est le titre d'un de ses ouvrages, ouais, enfin, penseur d'extrême droite.
Très bien, mais enfin, je connaissais pas et j'ai découvert, vous voyez, ça sert à quelque chose, j'ai découvert Norbert Elias que je connaissais pas et donc je me suis penché...
Sociologue qui utilisait le terme avant lui dans les années 30.
Bien avant, ouais. Attendez, plutôt que de faire une discussion tout à l'heure, métropole, c'était quoi, hexagone et métropole, est-ce qu'on peut se demander si, oui ou non, il a raison de dire qu'il y a un problème? En gros, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il y a un problème qui dépasse la politique, qui dépasse la politique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un mal-être, un malaise dans notre civilisation, c'est un autre titre d'un autre livre de quelqu'un d'autre, il y a un malaise qui renvoie à quelque chose de plus grave que la politique.
Vous ne pensez pas que c'est simplement une crise du civisme que nous traversons? C'est-à-dire on ne respecte plus l'élu, on ne respecte plus le policier, l'instituteur. Il faut reconstruire des autorités parce qu'un système de valeurs s'est effondré. Mais on n'est quand même pas dans une crise de civilisation sur le retour au chacun pour soi, à la loi de la jungle, à la barbarie.
Non, je pense qu'il y a, par exemple, pour nos gosses, je pense qu'on les élève, mais qu'on n'arrive pas à bien les éduquer. Moi, je suis sidéré de comment ça se passe dans un certain nombre d'écoles, je vous jure. La violence des propos, comment les gens interpellent l'instituteur, comme jamais vous n'auriez imaginé, même en étant un mauvais garçon, le faire. Je crois qu'il y a...
Et la violence contre les élus, c'est dangereux d'être maire aujourd'hui?
Moi, je me sens pas en danger chez moi, mais moi, on m'a cassé la gueule. Il y a quelques années, à côté de Bordeaux, invité par des élus, à côté de Saint-André-de-Cubzac, c'est un petit village.
Et c'était suite à une prise de position?
Pas du tout, j'arrivais pour parler avec des élus, ils ont attendu que j'arrive, ils m'ont cassé la gueule, des mecs de gauche. À ce moment-là, d'ailleurs, je vous ferai remarquer que j'ai vu aucun maire aucun élu, à part la poignée d'élus de la droite, qui a levé le petit doigt. Il n'y a pas eu un ministre qui a dit « c'est scandaleux ». Je suis juste le maire d'une ville qui existe en France. Il n'y a personne qui a trouvé scandaleux. Je ne dis pas… Je me demande pas, quand je proteste, la couleur politique des gens. Ça ne me vient même pas à l'esprit. Pardon, ça vient à l'esprit d'une majorité des gens. Oui, ce qui se passe, je suis sidéré, dans le quartier où j'ai passé mon adolescence à Béziers, il y a des gens qui préparent des guet-apens pour les pompiers. Enfin, je sais pas, madame, monsieur, les pompiers, c'était quand même, on a tous eu envie d'être pompiers, mais c'était quand même des gens qui sont formidables, on les aime tous, les pompiers. Il y a des gens qui les caillassent, les pompiers. Et je pense que c'est pas une réponse politique. On n'arrive pas qu'avec la politique. Et je pense que M. Macron a raison. Au-delà de la polémique du mot, dont je trouve qu'elle n'a aucun intérêt, je trouve qu'il a raison de dire qu'il y a un problème plus grave qu'on ne réglera pas. Marine Le Pen arrive demain au pouvoir, elle ne règle pas ce problème-là. Comme ça, vous ne faites pas ça et vous le réglez. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Quelques questions très concrètes, M. Ménard. Pour commencer, une réaction, s'il vous plaît. On a appris que le gouvernement souhaiterait transférer des milliers de sans-abri qui se trouvent à Paris vers les régions de France, hors Corse et Hauts-de-France, dans la perspective des Jeux Olympiques, avec un argument, l'afflux de touristes va remplir en fait les hôtels et donc les solutions d'hébergement. Est-ce que vous êtes concerné, vous ?
Mais nous, on a deux CADA dans ma ville, deux centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. J'en préside un des deux. Et je peux vous en parler. Alors là, je peux vous en parler.
Est-ce qu'on vous a dit que vous alliez recevoir des sans-abri parisiens,
on ne nous en a pas proposé, mais ce serait un vrai problème dans ma ville. Parce qu'aujourd'hui, sur les sans-abri à Paris, il y en a à Paris, en France, mais la plupart, 90% sont à Paris, enfin, ou dans la région parisienne, soyons plus précis. Je veux dire, il y en a 30%, un sur trois, un peu moins d'un sur trois pour être tout à fait, qui sont des déboutés du droit d'asile. C'est ça la réalité. Moi, je me suis battu toute la vie pour le droit d'asile. C'est l'honneur de notre démocratie, le droit d'asile. Quand quelqu'un est menacé dans son pays pour ses idées, sa religion, sa sexualité et tout, notre rôle, c'est de lui ouvrir les portes. Aujourd'hui, l'an dernier, plus de 137 000 exactement. Jamais on n'a accueilli autant de demandeurs de droit d'asile. Moi, je suis contre, par exemple, les quotas sur les demandeurs de droit d'asile. Je pense.
Il a raison.
Moi, je peux être critique sur un truc et dire que sur ce point, il a raison.
Et la demande du droit d'asile dans les pays d'origine.
Je ne saurais pas vous dire parce que je ne sais pas si c'est même faisable. Parce que dans tout un tas de régimes, enfin, que je connais, moi, ça a été mon boulot pendant 20 ans.
Il faudrait mettre en place des hotspots, en fait. Là,
tu vois, aller dans l'ambassade, près de l'ambassade de France, quand t'es, je pense que ça peut être compliqué. Mais non, mais sur ça, un tiers. Des sans-abri aujourd'hui sont des demandeurs d'asile déboutés. Le droit d'asile, je vous ai dit à quel point j'y suis attaché, mais aujourd'hui, il est détourné. 60% des gens qui demandent le droit d'asile ne l'ont pas parce qu'ils viennent de pays où ils ne sont pas menacés. Il y a des problèmes économiques, vous pouvez le dire, mais vous ne pouvez pas dire que la personne est menacée pour des raisons politiques. Aujourd'hui, un des problèmes, c'est que moi, chez moi, mais ça arrive tout le temps, vous savez, des gens qui, au bout, se voient refuser le droit d'asile, ils font un recours, ils se voient refuser d'eux. Normalement, la loi, elle dit une seule chose, monsieur. Elle dit, il faut les reconduire à la frontière et les ramener dans leur pays. Moins de 10% des cas, on y arrive. C'est ça, la question. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué à mettre en œuvre, on a bien de mal à le faire, que de dire on va les prendre et les mettre en région. Les gens, le problème de fond, c'est celui-là. Mais il est compliqué. Je dis pas que c'est facile à faire. Regardez les pays du Maghreb, on leur a dit, vous aurez plus de visa. On a changé d'avis en 6 mois. Tiens, j'aimerais que M. Darmanin me dise si ça a changé quelque chose pendant les 6 mois.
En tout cas, il a l'air d'en rediscuter avec la droite. Il dit que ça, c'est acceptable. Mais
bien sûr qu'il a. Ça veut dire qu'il a changé. Ça veut dire qu'on doit pouvoir trouver un terrain d'entente. Faisons pas toujours la politique du pire. Essayons d'être un peu intelligents.
Autre sujet qui n'a rien à voir. Décret paru, entrée en application de la loi sur les vols intérieurs, qui sont désormais interdits si une alternative en train existe en moins de 2h30. En fait, ça se résume à 3 liaisons, toutes depuis Paris-Orly, vers Nantes, Bordeaux et Lyon. Est-ce que vous soutenez cette idée ?
Enfin, c'est de la démagogie. Attendez, parce que le même vol, si vous êtes en correspondance, vous avez le droit. Vous savez, si vous allez plus loin...
En fait, c'est de gare à gare. Il y a une gare à Roissy, par exemple.
Si tu, à Roissy, comme il y a la gare TGV... Tu peux de toute la France y aller. Comme à Orly, il y en a pas. C'est pas la même chose. Enfin, attendez, moi je veux bien. Attendez, si ça doit faire plaisir à 4 écologistes, très bien. Mais honnêtement, vous pensez sérieusement que c'est le problème ? Le problème, c'est quoi? Le problème, il est difficile. Le problème, c'est que quand même, pour se déplacer, quand tu prends l'avion à 200 km, c'est que tu as un peu d'argent ou que c'est ton entreprise, ton administration, quelqu'un qui paye. Sinon, tu conduis en voiture. L'immense pollution en France, elle vient pas des avions, elle vient des voitures. Et en même temps, moi, je suis maire d'une ville de province, comme on dit, je trouve que c'est joli, je ne veux pas de ZFE, vous
et
savez.
Pourquoi? Ça oblige les gens et on peut les aider à changer de voiture. Vous voulez qu'il y ait moins de pollution.
Les zones à faible émission.
Qu'il y a dans les cœurs de ville.
Qui seront obligatoires en 2025.
Ouais, repensons le calendrier et aidons les gens à changer de voiture. C'est une bonne politique.
Parce que vous et moi, on a assez d'argent pour changer de voiture. Mais il y a plein de gens chez moi qui n'ont juste pas d'argent. Allez voir les artisans chez moi et demandez-leur de changer leur camion.
Ils sont contraints, les artisans. Là, il y a une commission d'enquête sénatoriale qui fait des sondages, qui travaille évidemment, qui va rendre un rapport mi-juin. Les artisans, typiquement, ils disent non. Ils veulent pas des ZFE.
Mais moi, je les connais, ils sont chez moi. Si tu leur dis, tu peux plus aller au centre-ville. En plus, tu vois, les gens du centre-ville qui ont besoin des artisans, s'ils sont contents du voyage, c'est pas possible. C'est de l'écologie qui tape sur les plus pauvres.
Mais comment on fait? Il y a quand même un problème climatique, vous parliez de...
Mais madame, je ne le nie pas. Je dis juste que comme les solutions sont des solutions à long terme, moi, chez moi, vous savez ce que c'est le problème? Le problème, c'est qu'on ne trie pas. On trie mal. Mais c'est tellement plus compliqué d'éduquer les gens, leur apprendre qu'il faut trier. Même moi, il faudrait donner les leçons. Je suis sur une génération qui ne l'a jamais fait. Donc, j'essaye un petit peu de m'améliorer.
Vous allez faire comment en 2025, M. Ménard? Attendez, alors, quand elle sera obligatoire, cette ZFE?
Monsieur, à la différence de tout un tas d'hommes politiques, je n'ai pas de réponse à cette question. Donc, je vous le dis tout de suite. Je dis juste que chez moi, ça demande un travail de fond qui est bien plus compliqué que d'interdire pour se donner bonne conscience. Alors, c'est quoi? C'est Marseille, Lyon et Nantes, c'est ça? Ou je sais pas quoi.
Les vols entre Orly, Lyon, Marseille et Nantes.
Voilà. Attends, c'est
Bordeaux et Nantes, pardon.
C'est un gadget. Vous êtes bien d'accord? C'est quand même un gadget. Ça concerne quoi?
Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron, qu'il faut faire une pause sur certaines normes réglementaires européennes en matière d'environnement?
Si j'ai envie d'être bien dans l'air du temps, je dis, il a tort. Quand même, l'écologie passe avant tout.
Et non.
Je suis maire d'une ville qui est entourée d'un océan de vignes. Les viticulteurs aujourd'hui, qui ont fait pour un certain nombre le choix d'une agriculture raisonnée, même pas d'agriculture bio, vous leur demandez ce que ça leur a coûté et s'ils peuvent se passer d'un certain nombre de traitements, allez leur demander la réponse. Alors moi, je dis juste une fois de plus, je comprends les choix qu'on doit faire, mais je dis, je vis aussi avec des gens au quotidien.
Vous évoquez l'angoisse de la sécheresse. Il y aura de l'eau à Béziers cet été, on pourra remplir sa piscine ou pas?
Les piscines, non, là on va s'arrêter.
Piscine personnelle?
Non, mais bien sûr. Mais attendez, mais ça pose des problèmes pour la ville, pour le maire que je suis. Dieu merci, j'ai un préfet intelligent avec qui je peux arriver à discuter. Dieu merci, malheureusement, j'ai eu des préfets qui faisaient que de la politique à Béziers. J'ai un préfet et j'en ai discuté avec lui. Je dis, je vous prends un exemple. Alors évidemment, il va y avoir Dieu merci, des exceptions. On joue au rugby chez moi. J'ai refait la pelouse du stade. Vous savez combien ça coûte de refaire une pelouse? Je pense que non, vous n'avez aucune raison de savoir. Ça nous a coûté 2,5 millions. Est-ce que vous croyez un instant que je vais arrêter de l'arroser?
Et une pelouse synthétique, c'était pas possible.
Attends, on en a. On a aussi des pelouses assez mi-synthétiques. Enfin, je rentre pas. On a des deux. Là, on a une très très belle pelouse, la plus belle de l'ensemble des matchs.
Donc, faut l'arroser.
Attends, je lui ai dit, vous plaisantez, monsieur? Et il m'a dit, bien sûr qu'il comprend. Vous voulez que je foute 2,5 millions à la poubelle? Vous voulez que vous venez avec moi dans les rues de Béziers? Vous allez dire aux gens, ah ben voilà, on a arrêté d'arroser la pelouse.
On peut pas ramener l'argument au particulier qui a investi beaucoup d'argent pour s'offrir un beau jardin, une belle maison.
Ouais, mais là, oui, tout à l'heure vous me parliez de la piscine. Je vous dis que la piscine, on peut s'en passer. Un certain nombre de pelouses, moi, je peux pas m'en passer. Un certain nombre d'arrosages, on peut pas s'en passer.
Ça veut dire quoi alors? Pour être très concret, parce qu'en fait, votre situation, on peut la démultiplier sur l'ensemble du territoire. Il y aura des arrêtés préfectoraux,
Il faut juste, comme le préfet de chez moi le fait, qu'il discute avec les élus. Moi, je suis pas irresponsable. J'essaye de voir ce que je fais. Non, on plante pas. On a, vous savez, tous les ronds-points, on va jeter. On a des serres, vous savez, pour produire des plantes. On va tout mettre à la poubelle.
Ah non, on ferait les.
Ouais. Mais non, parce que j'y ai pensé. Les offrir à des gens qui eux-mêmes ne pourront pas les arroser, vous avez compris que ça va être compliqué. Voilà, j'ai proposé à des maires d'autres villes de le leur offrir où il n'y a pas les mêmes problèmes.
Je voudrais revenir un instant, Monsieur Ménard, sur les liaisons aériennes. Il y a beaucoup d'élus, notamment dans le Sud-Ouest, qui se battent pour conserver leur aéroport. Parce que les liaisons, disent-ils, sont empruntées par des entrepreneurs et qu'elles sont vitales économiquement.
Mais je me bats.
C'est le cas chez vous aussi.
Mais bien sûr, moi j'ai un aéroport, un petit aéroport qui est là, qui est essentiel. C'est un petit aéroport, on a 250 000 personnes, mais on sait ce que ça rapporte pour l'économie. Il y a des gens, alors peut-être qu'on se trompe et que demain, il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi, et en particulier aussi au Cap d'Agde.
Combien de temps on met pour venir en train chez vous, depuis Paris?
4h15, exactement.
Et en avion?
Une heure et demie.
Donc ça veut dire qu'il y a un impact économique réel, la présence de cet aéroport?
Non, l'aéroport, il dessert pas Paris, évidemment pas. Il dessert tout un tas de villes en Europe et ça amène des touristes. Et c'est important. Chez moi, ma ville, elle vit de ça. Elle vit du tourisme. Et se passer de 250 000 personnes, c'est juste suicidaire. Suicidaire, ce serait suicidaire.
Merci beaucoup, merci Robert Ménard d'avoir été notre invité ce midi.
Merci à vous.
Dans BFM Politique, merci beaucoup Marie-Christine, Christophe pour votre présence. Voici affaire suivante, Ronald Guintrange accompagné de Dominique Rizet. Je vous souhaite une très belle après-midi. Ce soir à 18h, donc la bande du dimanche comme d'habitude. Et à 19h, tiens, vous avez évoqué son nom tout à l'heure. Monsieur Charles de Courson sera notre invité. Il débattra avec Alain Duhamel. À tout à l'heure.